Radio Okapi.
Le journal Belinda Bossuma.
À la une, ce déplacement massif des populations observé depuis quelques jours à Kichanga au Nord Kivu. Ces personnes ont fui les affrontements entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23, rapportent des sources concordantes. La Commission nationale des droits de l'homme encourage les femmes de la province du Kwilu à postuler à la députation tant nationale que provinciale. Émilienne Ouélé, coordonnatrice de cette structure, a lancé cet appel en prélude du début de l'opération de dépôt et traitement des candidatures prévue le 25 juin prochain. Et puis, cet échange depuis mardi à Zongo, au Congo central, sur l'harmonisation des vues autour des réformes du secteur de la justice, de l'administration pénitentiaire et des textes anticorruption. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur du programme Gouvernance et lutte contre la corruption au PNUD, initiateur de cet atelier. Bonjour et merci de nous recevoir dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Un afflux massif des déplacés s'observe sur place depuis quelques jours à Kichanga, chefferie Bachalimokoto au nord du territoire. D'après des sources concordantes, ces populations ont fui les affrontements entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. C'est notamment dans des villages Kasura, Boutale, Kaira et alentour. La société civile de la région affirme que des combats ont opposé hier ces belligérants à Kasura, Boutale et Monastère Monkoto. La même source déplore le fait que la population se retrouve victime des tracasseries de la part de tous les belligérants. Cependant, dans le territoire de Rutshuru, une accalmie s'observe depuis au moins 5 jours dans la partie Tongo et Bukombo après les affrontements intenses entre les rebelles du M23 et les Nyatura CMC et autres. Les habitants des localités de Kazimba et Kitwayogo se sont réfugiés vers Bukombo Centre pour se mettre à l'abri. La situation reste tendue également dans cette entité à cause de la présence des rebelles du M23 qui commettent des exactions. Restons au Nord Kivu. Le concept Wazalendo, utilisé ces derniers temps dans la région, suscite des réactions mais aussi une confusion totale. La population se pose des questions sur cette identité, mais surtout le rôle que jouent ces personnes armées dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, à la périphérie de Goma. Tout d'abord, que signifie le mot Wazalendo? Quels personnages désignent-ils? Comment sont-ils gérés? Ils répondent à quelle autorité? Nous avons recueilli des avis divers des acteurs locaux sur cette appellation. Nous en parlons avec Noëlla Luzitukabambi depuis Goma. Noëlla, bonjour. Que peut-on retenir du concept Wazalendo utilisé au Nord Kivu?
Oui, Belinda. Sur le plan linguistique, le mot Wazalendo en swahili signifie patriote de manière générale. Ce concept a pris une certaine ampleur à la suite de l'agression de la RDC par le M23, accusé d'être soutenu par l'armée rwandaise. C'est précisément après l'appel à la mobilisation générale lancé par les autorités congolaises pour faire face à cette guerre d'agression que tous les groupes armés locaux confondus se sont joints au FRDC pour combattre cette rébellion du M23 avec leur soutien. D'où l'émergence de cette appellation Wazalendo pour désigner des patriotes. Elle est devenue monnaie courante et fait partie du vocabulaire de manière spontanée. C'est une forme de reconnaissance du geste posé par ces groupes armés très appréciés par la population en général.
Mais comment ont-ils géré ces groupes armés locaux et quel rôle jouent-ils dans la sécurisation des entités, notamment Masisi, Rutshuru et Nyiragongo?
C'est à ce niveau justement, Belinda, que se pose le problème et cela suscite des préoccupations au sein de la population. Non seulement c'est presque tout le monde qui s'attribue cette appellation, on ne sait plus distinguer les bandits armés, les groupes armés et les civils. C'est la confusion dans des villages, rapporte plusieurs sources. Certains sont en uniforme de l'armée, d'autres en tenue civile, d'autres encore portent des tenues de toutes sortes. La population se pose beaucoup de questions sur la gestion de ces groupes armés. De quelle autorité répondent-ils? Qui contrôle leurs actes dans des villages? Sont-ils rémunérés ou pas?
Mais par rapport à ces préoccupations de la population, y a-t-il des dérapages déjà enregistrés dans les villages contrôlés par ces groupes armés?
Tout à fait, Belinda. Et selon plusieurs témoignages anonymes et des informations provenant de ces milieux, ces groupes armés seraient à la base de plusieurs cas de rançonnement, exactions et autres viols. C'est par exemple la perception des taxes sur plusieurs barrières érigées sur les axes routiers qu'ils contrôlent, sans oublier qu'il y a l'absence totale de la police et de l'autorité politico-administrative. Dans le territoire des Nyiragongo, par exemple, ces Wazalendo sont accusés par la population de tirer des coups de feu nocturnes, des braquages et parfois des être utilisé dans des règlements de compte entre individus. La population ne sait même pas dénoncer ces abus de peur de subir des représailles de ces hommes armés, d'après nos sources. Pour terminer, signalons Belinda que cette question de la gestion des Wazalendo a été posée au ministre de la Défense lors de sa visite à Goma il y a quelques jours. Les responsables des confessions religieuses avaient demandé au ministre de prendre des mesures préventives pour la gestion de ce groupe avant qu'il ne soit tard. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, Belinda.
Merci Noëlla. Je rappelle que vous interveniez depuis Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Rendons-nous dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu. 20 écoles primaires de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST de la commune rurale d'Oicha viennent d'être dotées des bâtiments et des matériels didactiques. C'est à travers un projet de 2 ans initié par l'ONG internationale NCR, le Conseil norvégien pour les réfugiés, projet pour une assistance et accompagnement éducationnel en faveur de plus de 8000 enfants déplacés et vulnérables. Selon l'inspecteur de l'enseignement primaire à l'EPST Oicha, ce projet va améliorer la qualité de l'enseignement dans cette zone. Ildefonse Kambale est au micro de Marc Marofimbo.
Nous disons merci beaucoup NRC parce que l'appui que NRC est venu apporter à l'EPST, tout le monde le voit, tout le monde est témoin, c'est un appui très significatif. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'avancées dans le cadre de niveau des apprenants et les enfants ont été boostés en matière, en apprentissage, en compétences dans les classes qu'on appelle classes de récupération. On nous a aidé avec une certaine quantité de talk, ça va nous aider aussi à achever nos travaux de construction au niveau de la sous-division. Vous savez que les écoles viennent d'être appuyées pendant 2 ans. Il y a certaines écoles qui ont bénéficié des bâtiments scolaires, des matériels didactiques, auraient même le kit élève aux apprenants, auraient même les kits qu'on appelle kits récréatifs. Donc ça permet aux enfants de faire leur jeu au niveau de l'école. Ils ont construit des latrines pour certaines écoles. Ça dépendrait juste de besoins particuliers de chaque école.
Du côté de l'Ituri, 90 déplacés de guerre du site de Kigonze à Bunia et de Kasenia, à 55 km de Bunia, ont été formés à la fabrication des savons et à la couture, organisée par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, antenne de Bunia. Cette formation vise à les rendre plus autonomes à travers le renforcement de leurs capacités financières. L'activité fait partie de la série organisée depuis mardi par le ACR à l'occasion de la journée des réfugiés. Des détails avec Jean-Claude Loki.
Marie-Esther Amani vit sur le site de Kigonze depuis 6 ans. À son arrivée en provenance de la commune rurale de Mongualo, où elle a fui les attaques des rebelles de la Codeco, elle n'arrivait pas à prendre en charge ses enfants. Grâce à l'appui financier du HACER, l'ONG Sophie Padi a organisé une formation en coupe et couture à laquelle elle a participé. Devenue couturière, elle s'occupe mieux de ses 4 enfants, même si les revenus tirés de cette activité restent très modestes et insuffisants. Je tiens vraiment à dire merci à Sophie Padi parce qu'avant, je menais une vie très difficile. J'avais des difficultés pour trouver à manger. Mais depuis que j'ai appris à coudre les habits, je m'en sors quand même, ne fût-ce que pour trouver du savon pour mes enfants. Selon le HCR, 90 personnes ont déjà été formées, dont 30 installées à Kasenyi. Certains bénéficiaires fabriquent des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont rachetées par des organisations humanitaires qui les distribuent ensuite aux femmes et filles en âge de procréer. Fawzi Aïdara, chargée des relations extérieures au bureau du HCR à Bunia.
Donc on met à contribution nos partenaires. Au lieu d'acheter ça ailleurs ou de commander ça de l'extérieur, alors on achète directement avec ces femmes-là. Elles ont un revenu.
D'autres déplacés exercent le petit commerce pour la survie de leur famille. Bunia, Jean-Claude Lequi, Dile Radio Kapi.
Sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega alerte sur la présence des individus armés sur son territoire. Il s'agit des mouvements suspects des groupes armés qui tenteraient d'envahir le parc pour exploitation illicite de ses ressources. Le parc national de Kahuzi-Biega appelle les communautés riveraines à la vigilance. Toutefois, la direction de cette aire protégée rassure sur la sécurité de sa zone touristique ainsi que celle de ses gorilles emblématiques. Des détails avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Le parc national de Kahuzi-Biega lance cette alerte à travers un communiqué de presse publié ce mercredi. La direction du PNKB dit détenir des informations sur d'éventuels mouvements suspects de groupes d'individus armés dans la zone de Nkenje, en groupement d'Irambi Katana, mais aussi dans la zone de Kakongola, en groupement de Kagabi, territoire de Kabaré. Ce communiqué poursuit que ces hommes armés et non identifiés auraient l'intention d'exploiter illégalement les ressources du parc, ce qui menace l'intégrité de la biodiversité préservée dans le parc. Ainsi, le PNKB demande-t-il aux habitants riverains, dont les peuples autochtones, à ne pas apporter soutien à ces inciviques qui menacent la sécurité de cette aire protégée et celle des communautés locales. Les mêmes communautés riveraines et même d'autres acteurs sont appelés à s'impliquer pour déjouer tout acte tendant à semer l'insécurité dans ces patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Toutefois, malgré la présence de ces individus armés, le parc national de Kahuzi-Biega tient à assurer tout le monde sur la sécurité de la zone touristique ainsi que celle de ses gorilles emblématiques. Emmanuel Amejoakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Élection 2023. Dans la province du Kwilu, la Commission nationale des droits de l'homme encourage les femmes de cette province en général et celle de Bandundouville en particulier à postuler à la députation tant nationale que provinciale. Emilienne Ouélé, coordonnatrice de cette structure, a lancé cet appel à Radio Kapi en prélude du début de l'opération de dépôt et traitement des candidatures prévue le 25 juin prochain par la CENI. Emilienne Ouélé encourage aussi les femmes vivant avec handicap à postuler. La coordonnatrice de la CNDH Kwilu s'exprime au micro de Irène Boma.
Je demande aux femmes de la province du Kwilu en général et de Bandundu en particulier que dans quelques jours, nous allons lancer l'opération de dépôt de candidature. Nous qui sommes toujours derrière les politiciens, ne partons pas seulement pour accueillir les politiciens et les accompagner pour le dépôt de la candidature, mais allons-y déposer nos candidatures. Il y a de ceux qui sont les leaders, il y a de ceux qu'on a formés pour devenir leaders. Femmes leaders, ne soyons pas toujours les suppliantes des hommes, mais soyons aussi à la tête des listes de dépôt des candidatures. Aux partis politiques, nous sommes tous conscients que les femmes dirigent mieux. Nous avons déjà l'expérience. Nous vous demandons de laisser la chance aussi à la femme pour qu'il y ait l'égalité. 50-50. Hommes-femmes, nous voulons marcher ensemble pour faire progresser notre ville de Bandundu et notre chère province du Kwilu.
Autre nouvelle, révision du plan de transition de la MONUSCO. Ce sujet était au centre d'un atelier hier à Kinshasa, organisé par la MONUSCO avec l'appui du projet conjoint de transition de l'Organisation des Nations Unies. Ce rendez-vous, qui se clôture ce vendredi, s'inscrit dans le souci de présenter le projet du plan de transition révisé, qui est axé sur 4 jalons. Jeff Opela nous en parle.
Il s'agit d'adosser les 4 premiers jalons sur la sortie échelonnée, progressive, responsable et durable de la MONUSCO de la RDC. Qui s'est fait la priorité, le point de repère du plan des transitions, ce veut être la sécurité, la protection des civils, les désarmements, la démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Le processus électoral pour les élections crédibles, transparentes, inclusives et pacifiques tenues dans les délais constitutionnels. Esther Mouratoua, coordonnatrice de la société civile Didjoui et représentante de la composante femme Sud Kivu, donne ses impressions.
Les premiers objectifs, c'est avoir une compréhension commune sur les plans de transition révisés de la MONUSCO dans notre pays RDC.
Pour sa part, Zozo Sakali, coordonnateur du cadre des concertations provinciales de la société civile du Sud Kivu, exhorte la société civile à relayer ces jalons à la base.
Et nous, à notre niveau, nous sommes vraiment en train d'appeler toute la population à s'approprier sur beaucoup plus les 18 jalons de ces plans ici, qui reprennent entre autres les processus électorale et à notre niveau nous voulons voir la MONUSCO appuyer les FARDC et même la population appuyer les efforts du gouvernement.
Le résultat entendu de cet atelier est d'avoir un même niveau de compréhension sur le plan des transitions révisées entre le gouvernement, les Nations Unies et la société civile nationale et provinciale.
Direction le Congo central. Comment renforcer le cadre légal pour combattre l'impunité et la corruption en RDC? Cette question a été au cœur des échanges mardi et hier mercredi à Zongo entre les députés, sénateurs et toutes les organisations étatiques et non étatiques spécialisées dans les questions d'impunité et de lutte contre la corruption. Alors que l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption plaidait pour l'examen et le vote d'une loi matrice de lutte contre la corruption qui est encore en étape d'avant-projet, les parlementaires, eux, soutiennent que pour des contraintes temporelles et constitutionnelles, l'attention soit mise sur la proposition du député Passy Zapamba portant révision du code pénal congolais. Des détails avec Michel Kifindangoy.
Afin de rendre efficace la lutte contre la corruption, l'APLC plaide pour le vote en priorité d'une loi spéciale anticorruption. Matadi Serge, conseiller à l'APLC.
La lutte efficace aujourd'hui demande à ce qu'on ait la loi spéciale anticorruption parce qu'elle intègre la prévention et la répression essentiellement.
Face aux contraintes temporelles et constitutionnelles, le soutien à la proposition de la loi portant révision du code pénal en est le premier pas de cette lutte, soutiennent tous les participants. Passy Zapamba, auteur de la dite proposition de loi.
Au niveau du bureau d'études, on a exigé le fondement juridique de cette loi anti-corruption. C'est ce qui nous a poussé à admettre cette proposition en attendant une loi matrice de corruption.
Pour doter au pays un organe efficace et autonome de lutte contre la corruption, le député national Jean-Paul Seguiobé propose la poursuite de l'examen et adoption de la loi Lokondo.
La loi Lokondo nous donne une bonne ossature, un noyau sur lequel on pourrait bien pivoter pour pouvoir faire avancer le pays sur la voie contre la corruption.
De Zongo dans le Congo central, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président du Zimbabwe, le principal chef de l'opposition et un ancien membre du parti au pouvoir exilé à la suite d'un coup d'État souhaitent tous se présenter à l'élection présidentielle prévue au mois d'août prochain au Zimbabwe. Les trois candidats s'y sont inscrits mercredi et l'agence électorale nationale doit annoncer la liste finale des candidats confirmés.
L'invité.
Harmonisation des vues autour des réformes du secteur de la justice, de l'administration pénitentiaire et des textes anticorruption, les députés, sénateurs, magistrats, agents des structures techniques du gouvernement et la société civile échangent ensemble depuis mardi à Zongo, au Congo central. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur du programme Gouvernance et lutte contre la corruption au PNUD, initiateur de cet atelier, Jules Kabangou, répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Monsieur Jules Kabangou, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à Zongo où vous venez de lancer un atelier de réflexion sur les réformes du secteur de la justice et de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative ?
Cette initiative est menée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme conjoint d'appui à la réforme de la justice, le projet d'appui à la lutte contre la corruption et le projet d'appui à la réforme du Parlement, initié par le PNUD. Avec quelques sections de la MONUSCO, notamment le BCNUDH, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la section d'appui à la justice et l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire. Le but majeur, c'est d'offrir un cadre à tous les acteurs qui interviennent dans la réforme du secteur de la justice et pénitentiaire, mais aussi dans la lutte contre l'impunité et la corruption. Et là, nous avons réuni à ce jour quelques sénateurs et députés qui sont intéressés par ces réformes autour de cette table. Nous avions aussi associé le ministère de la Justice, le ministère des Droits Humains, les différentes agences spécialisées dans la lutte contre la corruption ainsi que dans la lutte contre l'impunité pour fédérer les ressources, les énergies, l'intelligence afin de permettre aux députés de savoir quelles sont les urgences en termes de réforme. Et ces urgences seront portées par ces députés et sénateurs au niveau des commissions PAJ, des deux chambres du Parlement, pour pousser le plaidoyer de manière à ce qu'avant la fin de cette législature, qu'on puisse avoir trois lois. Il s'agit de la révision de la loi portant statut des magistrats, la loi sur l'aide légale ou l'assistance juridique et judiciaire, et la loi anticorruption. Il faut noter que ces lois sont déjà en examen au niveau de deux chambres du Parlement, mais pour autant que cet examen a pris beaucoup de temps, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour définir une feuille de route.
Nous avons constaté au cours du débat de fortes tensions entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Avez-vous senti là une détermination pour le Conseil supérieur de la magistrature de reconquérir définitivement son indépendance ?
Nous, en tant que partenaires des Nations Unies, nous sommes neutres. Nous avons offert seulement le cadre pour que les acteurs étatiques ainsi que la société civile échangent. Et aujourd'hui, le débat a été passionnés et nous estimons que c'est important que les députés puissent adopter une telle démarche. Aller consulter les personnes qui doivent les appliquer. La loi sur le magistrat concerne à 100% le conseil de la magistrature. Quoi de plus normal que ce conseil soit aussi écouté? Et c'est ça le cadre que nous offrons. Donc le débat est en train d'avancer très bien et tous les partenaires sont satisfaits parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais eu cette occasion.
Et pensez-vous qu'avec ces échanges, on arrivera réellement à une harmonisation de points de vue?
Oui, déjà dès ce soir, on a vu dans plusieurs groupes ou thématiques, il y a déjà une harmonisation sur l'une ou l'autre loi. Et ça, c'est déjà une avancée significative. Mais demain, les gens vont continuer maintenant pour analyser quelles sont les dispositions qui vont permettre à ce que le peuple congolais se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, la société civile est là pour vérifier tous ces aspects. Parce qu'elle a été associée pour ça. Les magistrats ainsi que d'autres organes d'audit sont là pour permettre à ce qu'ils puissent comprendre, déjà faire comprendre aux députés l'esprit de chaque disposition légale. Et même, vous allez vous rendre compte lors des débats, les députés étaient très contents des échanges. Ils ont dit, voilà, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments, suffisamment d'informations pouvant permettre à les convaincre aussi les membres de leurs commissions respectives pour à ce que les lois qui seront votées soient les lois qui ont été conçues avec l'apport de ceux-là qui sont censés les appliquer. Et là, à ce niveau-là, nous sommes satisfaits et nous estimons que si le débat continue comme ça, nous allons vraiment arriver au résultat escompté.
Prennent part à cet atelier une dizaine de députés alors qu'il y en a 500. Quelles sont les chances que ces lois ou alors le travail accompli ici pourrait facilement être adopté par les deux chambres du Parlement?
Ok, on l'a dit, c'est un processus. Le plaidoyer, c'est pas une action isolée. Ça commence par un pas, ça c'est le premier pas. La prochaine étape serait maintenant d'accompagner ces députés lors de la présentation de ces moutures, des propositions au projet de loi au sein de commissions PAJ respectives. Et là, ça sera la deuxième étape. Nous allons les accompagner pour que nous nous assurons que ces députés ont porté la chose et ont exprimé l'esprit qui a été présenté lors de ces échanges. Et nous allons aussi définir les prochaines étapes après la commission PAJ. Quelles sont d'autres actions de plaidoyer ensemble avec ces députés et les sénateurs pour arriver à l'adoption de ces lois dans l'unique session qui reste pour cette législature.
Monsieur Jules Kabangou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur du programme gouvernance et lutte contre la corruption au PNUD répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.